Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Vous vous êtes déjà retrouvé, après une négociation de salaire, à vous autoflageller parce que vous n'aviez pas su défendre ce que vous valiez ? Ou à court d'idées pour justifier votre envie de changer de poste, ou même de changer d'environnement de travail ? Vous avez déjà hésité à accepter une mission par peur de ne pas être à la hauteur ? Si vous avez répondu oui à au moins l'une de ces questions, et que vous êtes une femme ou une minorité de genre, l'invité du jour pourrait bien avoir quelques clés pour vous. Si ce n'est pas le cas, ne partez pas, je suis certaine que vous apprendrez quand même des choses. À commencer par vous inspirer du parcours de Sarah, la coach féministe de Power Ta Carrière, avec qui je suis aujourd'hui. Bonjour Sarah.
Bonjour Esther.
Alors je suis très contente de t'avoir à notre micro aujourd'hui. On va commencer par la base de ton projet, de ce que j'en ai compris, tu me dis si je me trompe, c'est l'idée d'aider les femmes à avancer dans leur carrière, les femmes et les personnes qui appartiennent à une minorité de genre. Pourquoi est-ce qu'elles en ont davantage besoin que les hommes, d'après toi ?
Alors, je pense que les femmes sont tout à fait compétentes et tout à fait sachantes dans énormément de sujets. Mais quand on voit que, par exemple, à la télé, il n'y a encore que 20% d'expertes qui sont appelées sur les plateaux télé et plein d'autres statistiques comme ça que je pourrais te citer, le monde ne les perçoit pas forcément comme compétentes ou sachantes. Le monde qui est patriarcal et qui aura toujours plus confiance dans un homme blanc, et en plus d'un certain âge aussi souvent, que dans une jeune femme racisée, par exemple. Et par conséquent, les règles du jeu ont été faites pour ces personnes-là, pour ces hommes blancs, pour qu'ils soient toujours gagnants, pour qu'ils soient toujours au-dessus de ces autres personnes, donc les minorités racisées, les minorités de genre, les femmes, etc. Et je me suis aussi rendu compte que les coachs qui aident les gens dans leur carrière, à développer leur carrière, à exprimer leur plein potentiel, ils le font très souvent en occultant complètement cet état de fait que je viens de mentionner. Donc, dans l'idée, ils se disent on peut traiter tout le monde absolument pareil, c'est un genre d'universalisme complet, avec, je trouve, la phrase qui le représente le mieux, ou plutôt le pire, le « si tu veux, tu peux », qui est avancée par plein de coachs, et on remarque que c'est des coachs, évidemment, blancs, qui viennent d'un milieu bourgeois, donc n'ont jamais été confrontés à aucun de ces inconvénients, de ces difficultés qui sont mis en travers des gens qui sont complètement injustes, mais qui sont vrais et qui font partie de la société. Et donc moi, je voulais parler à ces personnes-là à partir de leur vécu, à partir de ce qu'elles vivaient vraiment au quotidien, de ce que ces personnes-là avaient comme expérience du monde, et leur donner les clés, les règles du jeu, les astuces, les façons de faire pour s'en sortir, pour dépasser ces barrières, pour arriver à exprimer son plein potentiel.
Là, on a des constats qui sont un peu au niveau individuel, où on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut en termes de carrière, par exemple. Structurellement, ça découle sur des inégalités de manière plus globale. Est-ce que tu peux donner un petit aperçu de quelles sont les conséquences au niveau global de ces discriminations individuelles ?
Alors, en plus, c'est intéressant parce que le global nourrit l'individuel et l'individuel nourrit le global. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Mais du coup, concrètement, si on prend par exemple d'un point de vue des salaires, l'inégalité salariale en France, elle est de 19% entre hommes et femmes. Alors, je sais que certains me diront, oui, mais c'est normal, les femmes, elles travaillent plus à temps partiel, etc. Il faut savoir que les temps partiels sont très largement pas choisis. Donc, c'est encore plutôt une expression du sexisme, de la société, du monde du travail en particulier. Mais même si on prend les chiffres de l'INSEE et qu'on commence à les découper petit à petit, donc essayer d'avoir le même temps de travail, les mêmes postes, les mêmes responsabilités, la même expérience, etc., on se retrouve avec une inégalité résiduelle dite non explicable par l'Observatoire des inégalités et le ministère du Travail, qui reste de 9%. Et ça veut dire qu'en fait, concrètement, on paye une femme au même poste et au même travail 9% de moins qu'un homme. Et vraiment, de l'aveu même du ministère, ça ne s'explique pas. En fait, si, ça s'explique très bien, c'est de la discrimination pure. C'est plein d'éléments dont on parlera, le fait qu'en fait, les femmes négocient pas leur salaire. Alors, encore une fois, c'est pas pour jeter la pierre aux femmes, loin de là. C'est qu'en fait, elles négocient pas leur salaire pour plein de raisons systémiques. On n'apprend pas à parler d'argent aux femmes. On leur demande de faire plaisir tout le temps. Donc forcément, faire plaisir, c'est pas défendre son dû, etc., etc. Donc ça, ça a concrètement des répercussions sur la société. Parce qu'après, quand on gagne moins d'argent, on prend aussi plus souvent le congé parental. Parce que ça fait une perte de revenus moins importante pour la famille. Ça peut être une justification implicite ou explicite au fait de prendre sur soi plus de tâches, tâches domestiques, et par conséquent de à nouveau mettre des freins à sa carrière en tant que femme. Et puis alors, pour les femmes qui se disent « bon bah c'est pas grave parce que moi j'ai choisi la solution de l'entrepreneuriat, c'est tant mieux, je suis ma propre patronne, je demanderai plus jamais de compte à aucun homme blanc, je suis tranquille », il s'avère que vous allez croiser des hommes blancs dans l'investissement parce que c'est l'essentiel des investisseurs et dans la banque aussi. Et du coup, ça se reflète par le fait que, en fait, on refuse à un taux deux fois plus élevé les prêts pour les femmes pour une création d'entreprise que pour les hommes. Alors, toutes ces statistiques sont extrêmement binaires. Hein. Je suis désolée, c'est le ministère du Travail et d'autres associations de cette nature-là. Donc forcément, on va parler de femmes, hommes. Et malheureusement, il n'y a pas de statistiques pour les personnes non binaires. Mais tout ça pour dire qu'on va aussi accorder beaucoup moins d'argent en levée de fonds à des startups menées par des femmes qu'à des startups menées par des hommes. Un exemple typique, c'est qu'une levée de fonds moyenne pour une startup qui est gérée par une femme, c'est 1,5 million d'euros. Et pour un homme, c'est au-delà de 3 millions. Donc c'est à peu près du simple au double.
Ça, c'est quand même assez fou. Et ça, ça s'explique par les biais, en gros, des personnes qui accordent les fonds, les prêts ?
Tout à fait. Alors, on peut l'expliquer de plein de manières, des manières plus ou moins conscientes et plus ou moins machiavéliques. Si on donne le bénéfice du doute à tout le monde et qu'on essaye de pas du tout envisager que c'est fait exprès, qu'on essaye de maintenir les femmes en dehors des zones de pouvoir, voilà, ce qui peut très largement déjà se discuter. Mais admettons qu'on veuille donner le bénéfice du doute à tout le monde, ça s'explique par des phénomènes purement psychologiques qui sont en fait liés au fait qu'on aime l'homogénéité. Tout le monde aime l'homogénéité. On aime la personne qui nous ressemble. Parce qu'il y a personne qui nous ressemble a moins de chances d'être menaçante. Et ça, ça s'exprime dans le fait que comme tous les investisseurs quasiment sont des hommes, comme beaucoup de business angels sont des hommes, comme ils sont beaucoup des hommes blancs de 50 ans et au-delà, eh ben, ils ont forcément plus confiance dans un jeune homme de 30 ans blanc qui ressemble à eux jeunes. Donc il y a ce problème-là. Et donc forcément, en fait, ça peut être une vraie barrière d'entrée au pouvoir pour de nouvelles personnes, des personnes racisées, des femmes, parce que bah, y en a pas, donc il n'y en a pas. Et bon, c'est débile, c'est pas une justification, mais c'est une des façons de l'expliquer. Après, il y a aussi des raisons beaucoup moins honorables pour expliquer ça, hein. Des raisons purement sexistes. Je sais que récemment, j'ai fait un petit truc sur mon compte Instagram qui était la Coupe du Monde des phrases sexistes. Bon, mais il y en a une qui m'a été rapportée, entendue par un business angel dans une levée de fonds.
Juste business angel, je ne sais pas si c'est du vocabulaire.
Oui, autant pour moi. Alors, les business angels, c'est des investisseurs qui, en fait, vous prennent sous leurs ailes et qui, puis, du coup, financent essentiellement votre entreprise en espérant qu'un jour, ils auront un retour. D'ailleurs, c'est intéressant que tu me fasses rebondir là-dessus parce qu'en fait, les retours sur investissement des entreprises menées par les femmes sont 7% plus élevés que ceux des entreprises menées par des hommes. Donc en vrai, en termes d'investissement, il y a des pépites à trouver.
Oui, il n'y a pas de raison monétaire, financière à cette discrimination, quoi.
Absolument pas. Et dans le monde du travail, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le vivier le moins exploité, où il y a encore énormément de talents à trouver, des gens avec beaucoup de volonté, beaucoup de compétences et beaucoup d'intelligence, ben c'est ces viviers qui sont très largement sous-exploités, des personnes racisées, des personnes de milieux populaires et des femmes, par exemple. C'est le talent le plus gâché possible dans le monde du travail. Donc celui ou celle qui a l'intelligence d'aller chercher dans ses poules de ressources va trouver des gens formidables et exceptionnels. Donc la phrase qui était dite par un investisseur, c'était de dire que la personne, en fait, une femme, donc, vous ne savez pas gérer vos émotions, vous êtes hystérique, on ne veut pas travailler avec vous. Et il n'y a eu aucun conflit avant qu'on en arrive à ce niveau-là. En fait, avant que le conflit escalade à ce niveau-là, il n'y avait pas de conflit précédent dans la discussion. Donc là, c'est du sexisme. Hein. C'est une femme qui dirige, elle va avoir ses ragnagnoutes une fois par mois, on ne pourra plus lui parler. Donc voilà, ça c'est purement du sexisme.
C'est classique. On va creuser bien sûr un peu hein, toutes ces dimensions financières, syndrome de l'imposteur, tout ça. Mais avant ça, je voudrais revenir sur un peu le pourquoi de Power Ta Carrière. D'après ce que j'ai compris, tu as décidé de créer donc Power Ta Carrière qui vise à empouvoirer les femmes et minorités de genre dans leur carrière parce qu'il n'y avait pas de ressources en français, en fait, sur le sujet qui leur était spécifiquement dédié. D'après toi, pourquoi il n'y a pas cette ressource chez nous ?
Alors, moi, j'ai été pas mal biberonnée. Donc déjà, j'habite en Suède, pour ceux qui ne le savent pas. Donc forcément, j'ai changé de milieu pour faire ma carrière. Donc je travaille dans une société beaucoup plus égalitaire. Et ça m'a fait prendre conscience par différence des difficultés encore plus qu'avant que vivaient les femmes en France. Et ça m'a aussi permis moi-même d'apprendre des choses sur ma carrière, de faire plein de conneries. Et c'est notamment la base de comment j'explique ce qu'il ne faut pas faire sur Power Ta Carrière. C'est les conneries que j'ai faites moi-même. Hein. Donc c'est juste pour vous éviter de les faire, pour que vous alliez en faire d'autres un peu plus loin sur le chemin et que vous puissiez à votre tour expliquer à d'autres gens pourquoi il ne faut pas faire ci et ça. Donc l'idée, c'était de partir de mon expérience. Et moi, mon expérience, elle a été beaucoup nourrie par les comptes américains, notamment anglo-saxons, américains et britanniques. Mais j'ai la chance d'être complètement bilingue en anglais.
Comme quoi, par exemple ?
Alors, par exemple, sur les comptes financiers, je peux parler de Her First 100K, où en fait, c'est une jeune femme qui a réussi à investir et à avoir dans son compte d'investissement, donc entre ce qu'elle a investi et ce qu'elle a récupéré en retour sur investissement, 100 000 $, alors qu'elle a, je crois, 30 ans ou moins de 30 ans même. Donc, elle explique comment elle en est arrivée là. Et donc, en fait, elle fait au passage toute l'éducation financière. Elle parle beaucoup d'argent, de comment gérer son argent et comment gagner, etc. sur son compte. Et puis, il y a aussi The Financial Diet, ça parle aussi d'argent. Career Contessa, ça parle de carrière, etc. Donc, il y a pléthore de comptes américains. My Baby Bump, je crois que ça s'appelle, quelque chose comme ça, où en fait, elle parle de carrière pour les mères. Et elle est britannique. Donc sur Instagram, plein de contenu de blog, des podcasts, tout ce que tu veux. Mais il faut être bilingue, ok ? Moi, pour moi, j'ai cette chance-là, je suis très à l'aise en anglais, aucun problème. Mais on sait bien que ce n'est pas forcément le cas de tous les Français. Et en français, j'étais surprise qu'il y ait très, très peu de contenu. Il y a vraiment très peu de comptes qui parlent d'argent, très peu de comptes qui parlent de carrière. Et ça m'a beaucoup posé la question pendant longtemps.
Du pourquoi,
parce que bon voilà, je suis contente d'avoir ma propre voix, d'exprimer les choses, mais j'aurais adoré qu'il y ait plein d'autres gens pour en discuter avec eux, pour débattre, pour qu'on se soutienne les unes les autres, pour que je puisse dire moi je suis pas spécialiste de cette question, allez voir telle personne pour telle question, etc. Le plus on est nombreuses, le mieux c'est en fait. Il n'y a pas vraiment d'esprit de concurrence dans ce sens-là sur Instagram, dans le sens que en fait au contraire ça fait émulation et tout le monde se porte. Mais il y en a vraiment très peu. Il y a très peu d'autres créatrices de contenu de ce type-là. Il y a peu de coachs féministes aussi. Pareil, les coachs sont beaucoup des hommes, très connus et complètement des hommes et blancs. Donc voilà, il y a cette difficulté-là. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je m'ai beaucoup réfléchi et j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, toute la question de l'argent est relativement taboue dans le féminisme français. C'est différent, par exemple, dans le féminisme suédois où c'est une composante essentielle du féminisme suédois. Mais dans le féminisme français, il y a une très très forte association avec l'anticapitalisme. Et ce qui est compréhensible, pourquoi pas.
Oui, ce qui est compréhensible parce que de base, on se dit que le patriarcat a des racines, enfin, le patriarcat, le capitalisme, le colonialisme, le racisme ont tous des racines communes. Et donc, c'est seulement en combattant le tout qu'on va y arriver. Sauf que du coup, si on doit être anticapitaliste pour être féministe, on parle pas d'argent, en gros.
On parle pas d'argent et on attend d'avoir en fait complètement révolutionné le système. Dans l'idée où l'argent est plus une métrique de valeur des personnes, le travail n'est plus au centre de la vie des personnes, le profit est plus au centre de la société, etc. etc. Ok. Le problème, c'est qu'en attendant, les inégalités se creusent. Par exemple, si on prend la métrique qu'utilisent les Glorieuses, que moi je trouve est très très visuelle et très compréhensive.
Les Glorieuses, juste deux mots pour dire ce que c'est maintenant un média qui distribue plusieurs newsletters, mais à l'origine, c'était un mouvement qui se battait aussi pour l'égalité salariale et qui a organisé plusieurs mouvements. Je ne sais plus quelles étaient exactement les dates et les heures, mais comme le 16 novembre, 13h47. Ok, vas-y alors.
Alors super. Justement, c'est le problème, c'est qu'elles évoluent dans le mauvais sens en plus. C'est-à-dire que du coup, en 2019, c'était à la date du 5 novembre, le jour du dépassement féminin, si on peut dire ça comme ça, comme il y a le jour du déplacement pour la planète. Là, c'est le jour à partir duquel on travaille toutes gratuitement. Mais alors, en 2020, ça a été reporté au 4 novembre. Donc, c'est-à-dire que ça, non seulement ça évolue pas vite, mais surtout, ça évolue pas dans le bon sens. Et de la même manière, le forum de Davos, qu'on peut pas tellement taxer d'être des grands gauchos...
Non, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ils ont établi là qu'en fait, le Covid avait fait reculer l'égalité femmes-hommes de 36 ans, donc d'une génération. Donc maintenant, il nous faudra...
Tant pis pour nous, ce sera pour nos filles, c'est ça ?
C'est, bah, plus que ça, parce qu'il faudra 135 ans au rythme auquel on va pour résorber les inégalités femmes-hommes. Donc en fait, pendant qu'on attend le grand soir et qu'on espère que ça arrive, bah, les inégalités, elles marchent dans le mauvais sens. Ok, alors on peut espérer que ce soit un point de pression pour faire arriver le changement de régime, le changement de système plus rapidement, mais on peut aussi se dire qu'on agit tout de suite, maintenant, pour aider les femmes à trouver leur place et à prendre la moitié du gâteau. Et moi, c'est ma démarche. Je comprends et je soutiens pleinement celles qui travaillent sur le long terme. Moi, j'ai envie de me positionner sur un terme beaucoup plus court et faire que les personnes qui me parlent, eh ben, elles gagnent 10-15% de plus aujourd'hui. En plus, à titre personnel, je pense que ça a un effet sur le long terme. Plus il y aura de femmes qui négocieront leur salaire, défendront leurs intérêts, se battront pour ce qu'elles valent, moins ce sera facile de continuer à garder la botte sur la tête de toutes les femmes. Moins ce sera facile de leur pousser la tête sous l'eau. Plus les femmes gagnent de l'argent, plus elles sont dans un équilibre dans leur vie personnelle aussi, dans leur couple, si c'est un couple hétérosexuel, pour s'affranchir de ces idées, tu gagnes moins, donc forcément tu dois compenser dans la vie familiale ceci et cela.
Et puis il peut y avoir un lien avec les violences en prime, parce que quand on est dépendante financièrement, trop dépendante financièrement de son compagnon, c'est aussi un facteur qui fait que parfois on ne peut pas partir, ou que c'est beaucoup moins facile de partir, et ça a des effets même à plus large échelle, la précarité sur la santé, ce genre de choses, quoi.
C'est absolument vrai. On sait qu'il y a une grande dimension de violence économique dans les violences conjugales. Donc forcément, ça, c'est important. Et c'est important à la fois, du coup, d'avoir des solutions pour ne pas dépendre financièrement de quelqu'un d'autre, mais aussi de savoir comment se préserver de ce genre de situation. Et je pense aussi que, en fait, en général, augmenter la confiance des femmes, leur apprendre quelle est leur valeur, ça se répercute partout. C'est plus facile, entre guillemets, de se sortir de situations vraiment néfastes, toxiques, ou de ne pas y entrer quand on connaît sa propre valeur. Et c'est pour ça que la société aussi vise à toujours essayer de minorer la valeur des femmes. Il y a un autre exemple aussi qu'on peut citer tout de suite, qui est très très féministe pour moi, c'est que on va créer des rôles modèles, on va créer des personnes qui sont visuelles. Et ça, c'est possible s'il y a de plus en plus de femmes partout, parce qu'on sait qu'en général, on essaye de minorer le travail des femmes, on les nomme pas, on planque ce qu'elles font, leurs accomplissements. Mais plus on est nombreuses, moins ça devient facile de tout planquer tout le temps. Donc c'est aussi pour ça que je me bats, par exemple. Donc c'est pour ça que je pense que ça a un effet court terme, mais ça a aussi un effet au long cours.
Je voudrais parler d'un concept qui représente un peu cette dichotomie dont on parlait, faut-il ou pas parler d'argent dans le féminisme français, c'est celui de la girl boss. Moi, j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ce concept-là et comment toi, tu l'intègres à ta démarche.
Alors, à titre personnel, par exemple, je ne vais pas m'en cacher, tous ceux qui suivent mes publications Instagram savent bien qu'il y a un hashtag girlboss quelque part dans les publications Instagram. On va se dire la vérité, ça attire l'attention déjà sur les publications, donc c'est une des raisons pour lesquelles je le fais. Et en plus, je n'ai pas un urticaire aux mots aussi fort que beaucoup de gens puissent l'avoir.
Alors, d'où il vient cette urticaire de base pour beaucoup de gens ?
Alors, je pense que déjà, il n'est pas forcément infondé parce que un peu tout a été mis derrière ce concept. Beaucoup de trucs très très moches. Donc, je peux comprendre qu'il y ait cette idée de se dire « Non, mais ça a été récupéré, c'est complètement dégueulasse comme terme, etc. » Donc, je peux comprendre ça. Je peux comprendre aussi l'idée de dire « Je suis juste un boss, je ne suis pas une girl boss, je suis comme les autres, en fait. » Le fait que je sois une femme n'a rien à voir avec ma position dans la société ou ma position dans l'entreprise. Je veux juste qu'on me reconnaisse en tant que telle, en tant que professionnelle. Moi, je le prends un peu différemment. Je le prends dans le fait, étant donné que le monde entier va me balancer dans la tronche que je suis une femme, étant donné que tout le monde va partir de ce postulat, va me regarder, va se dire « Ah, c'est une femme !» Et il va venir toute une cohorte de stéréotypes associés avec le « Ah tiens, c'est une femme !» Eh ben, j'ai envie de revendiquer ça. J'ai envie de me l'approprier. J'ai envie de dire à tout le monde que oui, non seulement je suis une boss, mais je suis une girl boss. Et pourquoi ça ? Je pense que justement, le jour où on fera disparaître le mot complètement naturellement, ça sera le jour où en fait, ce sera plus nécessaire de préciser que oui, je suis une femme et j'y suis arrivée. Mais pour l'instant, tant que être une femme, c'est un obstacle à plein de moments dans ma vie professionnelle, et ça l'a été à plein de moments dans ma vie professionnelle, ben, j'ai envie de renverser cette réputation en quelque sorte et de ne pas le planquer, de ne pas le mettre sous le tapis. Ce que je trouve ça un peu facile, c'est un peu comme tout le concept de méritocratie républicaine. Moi, je viens d'un milieu populaire. Et du coup, c'est tentant pour plein de gens d'utiliser mon exemple où maintenant je gagne beaucoup plus d'argent que mes parents, tristement, n'en ont gagné probablement dans une grande partie de leur carrière. Que maintenant que j'ai réussi, maintenant que je suis passée dans les classes moyennes supérieures, c'est facile de dire « Ah bah oui, c'est l'école française, la méritocratie, c'est pour ça qu'elle s'en est sortie. » Et du coup, c'est facile de dire « Non, non, mais on n'en parle plus du fait que tu viens d'une classe populaire, parce que c'est bon, maintenant t'es comme tout le monde. » Alors qu'en fait, je le vois bien que ça joue dans mes codes, ça joue dans plein de choses, ça joue dans les choses que je... la culture que j'ai, que d'autres n'ont pas, et celle que je n'ai pas, que d'autres ont, etc. Donc c'est le genre de truc que j'ai pas envie de mettre sous le tapis. Et c'est là où en fait, tu vois, on a toujours une discussion entre universalisme et expérience personnelle de groupe, en fait.
Et puis surtout, on ne peut pas généraliser. C'est-à-dire que j'ai souvenir de cette phrase de Rokhaya Diallo qui dit quelque chose comme « Je suis une aberration sociologique », dans le sens où elle a déjoué les statistiques, un peu de la même manière que tu le dis. Et en fait, le taux pour des personnes voilà, qui viennent de milieux populaires, qui partent en gros avec des bâtons dans les roues, on ne peut pas en prendre quelques-uns pour en faire des exemples et dire « Ah bah vous voyez, c'est possible en fait !» Parce que statistiquement, globalement, il reste encore trop de bâtons dans les roues de toutes les personnes sur la ligne de départ. Quoi.
C'est absolument ça, c'est la même course pour tout le monde, sauf qu'il y en a qui la font en croisant des rivières avec des crocodiles, sans chaussures, sur du tarmac, alors qu'il y en a, ils sont dans un stade et c'est tranquille. Et après, ils regardent et ils font « Mais dis donc, pourquoi vous n'en êtes pas là où vous en êtes ?» Moi, c'est pareil, en fait, statistiquement, j'avais 3% de chance d'être là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire ingénieur et d'une classe moyenne supérieure alors que mes parents sont de classe ouvrière basse. Donc voilà, c'est ça, le taux de conversion, c'est 3%. Et du coup, pour revenir à la girl boss, c'est pareil en fait. J'avais tellement peu de chance d'en arriver à être directrice commerciale Europe que maintenant, j'ai pas envie de planquer le truc en mode bah, « je suis directeur commercial Europe ». Déjà, la féminisation du nom est importante pour moi parce que ça fait aussi partie du fait que si ça m'a coûté à une époque, je veux qu'aujourd'hui, ce soit bien noté, marqué et visible. Après, sous le concept de la girl boss, comme plein d'autres concepts féministes, ils ont commencé à faire des t-shirts, des mugs, des piles, des ceci. Bon, jusque-là, c'était capitaliste, mais pas spécialement négatif. Puis ils ont aussi commencé à l'utiliser, pour, par exemple, pour faire la promotion de systèmes très délétères comme les MLM, donc qui sont en fait des pyramides de Ponzi, des entreprises qui en fait exploitent les gens qui travaillent dedans, leur prennent leur argent sous prétexte que « Oh, vous allez être autre entrepreneur et c'est génial et vous allez vendre des cosmétiques, des poudres pour le régime, des sachets protéinés ou je n'en sais quoi d'autre » et qui en fait sont juste l'arnaque la plus ancienne de l'histoire de l'économie qui est la pyramide de Ponzi. Quoi. Et ça, le principe de girl boss, il a beaucoup été utilisé pour ça sur des populations immigrées aux États-Unis notamment.
Est-ce que tu peux détailler un peu cette idée-là ? C'est-à-dire quoi ? On leur dit, viens, tu vas être une girl boss, tu vas avoir sous ta coupe, en gros, tu vas prendre des responsabilités, tu vas monter en grade, tu vas peut-être créer ton entreprise, mais du coup, dans un cadre où on continue d'oppresser ceux qui sont Alors, employés ou...
Alors non, c'est encore plus vicieux que ça. La pyramide de Ponzi en économie, c'est en fait c'est une arnaque qui est super vieille, qui date... alors le Ponzi en question qui a donné son nom, je crois qu'il est ses débuts du siècle dernier, ou alors fin du siècle d'avant encore, du 19e. Donc c'est l'idée qu'en fait, dans une entreprise ou un investissement ou quoi que ce soit, donc par exemple, toi Esther, je te convainc que l'investissement que je vais faire, il est vraiment trop bien, donc il faut que tu me donnes ton argent. Tu vas me donner ton argent et je te promets un retour, mais ridicule. Je vais te dire... mais je te le rends, mais fois 100, donc je te le double ton argent. Donc forcément, tu me donnes ton argent, c'est le meilleur investissement sur le marché. Moi, je peux absolument pas faire ce rendement, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc ce que je fais, c'est que j'arrive à convaincre 4 autres personnes, et avec l'argent de ces 4 autres personnes, j'arrive à te donner ton argent et ton retour sur investissement. Donc toi, par exemple, t'as rien perdu, t'as peut-être même gagné des sous, mais les suivants, ils ont payé son truc. Comme tu vois, très rapidement, j'ai un problème parce que pour payer une personne, il faut que j'en arnaque 4 autres. Donc au bout d'un moment, j'ai un problème. Donc il y en a forcément dans l'histoire qui vont se faire avoir. Alors ce système, il a été complètement industrialisé dans un truc qui s'appelle les MLM. Donc les MLM, c'est les multi-level marketing. Donc en fait, c'est des entreprises, vous connaissez peut-être, hein, c'est ceux où vous avez une copine ou un copain. Alors c'est souvent des femmes, c'est ça qui est triste, qui vous vend un truc à la maison. Et ils sont auto-entrepreneurs et en fait, ils ont acheté le produit auprès de l'entreprise et ils essayent de vous le revendre. Et souvent, c'est beaucoup trop cher et pas très utile comme produit. On peut trouver des meilleures solutions, ce genre de choses. Et du coup, ils ont du mal à revendre le produit qu'ils achètent. Et ils sont forcés à continuer à acheter pour continuer à obtenir les discounts sur les achats. Il y a des espèces de volumes obligatoires et ce genre de choses. Donc en fait, ils continuent à mettre de l'argent dans l'investissement. Et souvent, ils ne récupèrent pas leur argent. Et ça a vraiment mené à la ruine de personnes, de familles et tout. Et c'est très targeté vers les femmes, souvent avec cette idée de girl boss, tu vas avoir des revenus automatiques, tu peux travailler de chez toi, donc tu peux t'occuper de tes enfants, tu travailles quand tu veux, les retours seront énormes, etc. etc. Sauf qu'ils le sont pour très peu de personnes dans ces entreprises. Les études menées par les autorités américaines montrent qu'il n'y a que 1% des gens qui travaillent sous ce format-là qui en fait arrivent à récupérer ne serait-ce que leur mise. Et ça, c'est par exemple le concept des girl boss, il a été utilisé à fond pour ça.
Ouais. Oui, donc on voit qu'il y a un peu deux faces à cette pièce. Maintenant qu'on a défriché un peu le contexte, j'aimerais qu'on parle un peu, qu'on regarde un peu la pratique. Quels sont les leviers donc que toi, tu mets en place en coaching ? Alors évidemment, on ne va pas tout donner parce que bon, je pense qu'un accompagnement personnalisé, tu nous le diras probablement ensuite, est plus efficace. Mais par exemple, je voudrais commencer par le terme d'ambition. Toi, qu'est-ce qui veut dire pour toi ce mot-là déjà ?
Mais alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que ma définition personnelle de l'ambition, et c'est pas pour botter en touche, hein, je vais vous la donner, mais elle a relativement aucun intérêt pour qui que ce soit. Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que toi tu mets derrière le mot ambition. C'est ça qui m'importe. Par exemple, si ton ambition c'est je veux vivre heureuse, être tranquille, je veux juste avoir assez de revenus pour vivre ma vie confortablement, on peut essayer de détailler un peu dans les chiffres ce que ça veut dire. Mais ça peut être très bien. Si tu me dis, moi, pour moi, c'est super important, je veux devenir PDG du CAC 40. Je veux être une femme PDG du CAC 40 ou la femme PDG du CAC 40, qu'il n'y en a pas en ce moment. Eh bien, c'est pareil. On te soutiendra pour aller au bout de ça. Rien n'est péché. L'ambition, ce n'est pas péché en soi. C'est cette espèce de valeur morale derrière, je trouve ça toujours très, très saisissant. Parce qu'en fait, c'est une valeur morale qu'on ne met pas sur l'ambition des hommes. Mais c'est parce qu'on continue à se dire que le salaire des femmes, notamment dans le couple ou dans la famille, c'est le deuxième salaire, c'est le bonus. Et que l'homme apporte vraiment ce qui est nécessaire à la famille. Ça met une pression absolument ridicule sur les hommes et ça met une injonction et une interdiction absolument insupportable sur les femmes. Donc l'ambition, c'est ce que tu veux que ce soit. C'est ce que toi, tu veux obtenir. C'est ce à quoi tu rêves. Alors le problème, c'est qu'il y a même des femmes, on les a tellement fracassées que c'est pas facile de les amener à rêver à quelque chose, mais on peut y arriver. Alors à titre personnel, moi, mon ambition, à l'heure actuelle, mon dream job, par exemple, ça serait de devenir directrice de la stratégie d'une grande entreprise. Donc j'en suis plus très loin, hein, dans un poste ou deux ça devrait être bon, et puis après je verrai s'il y a un truc derrière ou finalement si ça c'était drôle. Et puis c'est bien parce que l'ambition ça peut changer dans ta vie, c'est-à-dire qu'à un moment tu peux aussi te dire qu'en fait ton ambition c'est d'ouvrir un bed and breakfast en Islande et c'est cool et on sera là pour t'aider à le faire. Donc je pense que c'est ça qui est vraiment important, c'est arrêter, enlever cette dimension morale à l'ambition.
Mmh. Moi, en préparant l'interview, je me demandais si en fait... l'ambition, c'était, ça pouvait aller quand même avec, quelque part, le syndrome de l'imposteur, ou est-ce que, à partir du moment où c'est bon, t'as trouvé ton ambition et tu l'assumes, c'est bon, ça veut dire que tu es un peu immunisé contre ce syndrome d'imposture qu'on a toutes plus... Je ne sais pas si ma question est claire.
Je comprends tout à fait. Et alors, la réponse, elle se trouve dans mes coachés, par exemple. J'ai coaché des femmes qui sont dans des comités exécutifs de banques. J'ai coaché des femmes qui sont... qui travaillent dans des hautes sphères politiques, etc. Et en fait, non. Tristement, l'ambition, c'est ta vraie voix intérieure qui te l'annonce. Le syndrome de l'imposteur, c'est la couche dégueulasse que tout le monde a mis par-dessus. Donc, c'est pas toi, par essence, c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est cette couche horrible. Donc, c'est le petit saboteur. Moi, j'ai une coachée qui appelle ça un hacker. Je trouve ça pas mal aussi comme terme. C'est le petit hacker dans ta tête. Et tu peux aller le plus loin où tu veux dans la vie. Si tu te débarrasses pas du petit hacker, il sera toujours là pour trouver la phrase la plus pourrie du monde, tel un Pascal Pro de ta tête, pour te dire que tu l'as pas mérité, c'était un coup de bol. Et alors, des fois, c'est dans des niveaux de mauvaise foi. Hein, pour ça, l'exemple n'était pas trop mal choisi, je pense, là-dessus. C'est dans des niveaux de mauvaise foi assez extraordinaires. C'est-à-dire que j'ai des coachés qui ont objectivement réussi leur vie sur des standards, enfin, je veux dire, sur les standards d'à peu près tout le monde, quoi. Et qui sont encore en train de se dire que elles ne le méritent pas, quelqu'un va venir leur voler le truc, enfin leur reprendre parce que c'est elles qui l'ont volé, c'est elles les imposteurs. Mais quelqu'un va venir leur dire « Madame, il faut partir d'ici, elles vont tout perdre, c'est arrivé par accident et c'est pas encore maintenant la réussite, c'est plus tard. » Et ça, tu peux te le dire longtemps si en fait, justement, tu fais pas ce travail de savoir c'est où la réussite, qu'est-ce que c'est de réussir pour toi. Et en plus, mettre un coup de pied à l'autre saboteur, là, on peut en parler avec des techniques concrètes.
Bah justement, voilà, c'était ma question suivante. Comment on fait pour lui botter le cul, voilà, pour qu'il la ferme, quelque part?
Alors déjà, on lui dit. Et alors, pour commencer à lui dire, moi, un truc que je suggère absolument tout le monde, c'est le petit saboteur, là, le petit schtroumpf dans la tête, vous lui trouvez un nom. Parce que c'est pas vous et c'est pas toi. Donc comme c'est pas toi, il faut pas qu'il ait ton nom, il faut pas que ce soit toi. Parce que lui, il va essayer de se planquer et d'essayer de te faire croire que c'est toi qui te parle. Et qu'en fait, c'est du bon sens, tu vois, de te dire « Ah bah non, je peux pas être trop fière de moi parce que sinon je vais arrêter de bosser. Ou si je suis trop fière de moi, qu'est-ce que j'en sais, s'il faut c'est pas bien. » Ou alors au premier échec que t'auras, genre « Ah bah tu vois que t'étais une grosse nulle. » Bon, donc celui-là déjà, il faut lui donner un nom. Parce que quand on lui donne un nom, on va commencer à pouvoir lui donner des contours. Donc on va pouvoir commencer à écouter son dialogue intérieur pour se rendre compte de toutes les fois où on se dit des horreurs. Et par exemple, comment on sait quand on se dit des horreurs? On se dit « bah non, s'il faut, c'est juste du bon sens ». Non, si tu le dirais pas à une amie, le choix des mots en plus est important, ça vaut pas pour toi non plus. Donc il y a un grand principe de base qui est de se traiter en amie. Donc au début, tu lui donnes un nom et t'écoutes ton dialogue intérieur. Et tout ce que tu dirais pas à une amie, bah faut sacrément envisager d'arrêter de se le dire. L'autre truc aussi qu'on peut faire, qui est hyper important, pareil, je recommande à absolument tout le monde, après ce podcast, prenez une feuille de papier, prenez un stylo et notez la liste de vos accomplissements, la liste de vos réussites. Il y en a déjà qui sont en panique, parce que c'est toujours le cas. Quand je le dis ça en conférence, il y a des visages qui blêmissent. Vous avez toutes réussi un truc, ok ? Il y a pas, la liste n'est pas vide. Et je sais qu'il y a peut-être même des gens jeunes qui nous écoutent et qui se disent « Non, mais moi... » Non, si. Si t'as passé ton permis et que tu l'as eu, ça compte. Si t'as passé un diplôme et que tu l'as eu, ça compte. Avoir survécu à une année de Covid, ça compte. Avoir survécu à une relation toxique, ça compte. Vous pouvez le souligner, celui-là. Si vous en êtes sorti d'une boîte, ça compte. Si vous avez obtenu un job, ça compte. Si vous avez obtenu un stage, ça compte. Si vous avez été alternant, ça compte. Si jamais un jour t'as voulu faire un truc, t'avais très peur de le faire et après t'as réussi. Ton syndrome de l'imposteur va te dire « bah finalement, c'était pas si dur que ça », alors que ce que tu dois te dire, c'est « ça m'a fait très peur et j'y suis arrivée ». Donc, ça compte. Tous ces trucs-là, vous les notez. Au début, ça va être dur d'en écrire et en fait, petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses dont vous pouvez être fier. Vous pouvez écrire toutes ces choses-là sur le papier. Si vous trouvez ça difficile, mettez-vous un timer, 5 minutes, vous n'avez pas le droit de vous lever tant que vous n'avez pas écrit des trucs, vous allez voir, ça va venir. Cette feuille, vous ne faites pas une petite feuille volante, un post-it pourri. Cette feuille, c'est vous, donc vous l'honorez, c'est un vrai truc. Donc pour celles qui aiment dessiner, vous pouvez dessiner. Pour celles qui aiment, je ne sais pas, faire du scrapbooking, faites du scrapbooking. Parce que vous allez la garder dans un coin. Et quand votre syndrome de l'imposteur, il repointe son nez, c'est le moment de la lire et de vous rendre compte qu'en fait, non, tu as réussi plein de trucs dans ta vie. Tu en as raté très peu. Ce que tu as raté, ça t'a mené à une autre réussite. Donc, l'autre, pouet pouet. Et donc vous lui dites, alors pour reprendre des noms qu'on m'a donnés, Semoule, Vlad, Didier, etc., Jean Zizi, vous lui dites, tu te tais, C'est pas le moment, je reviendrai vers toi, mais là, j'ai pas envie de t'entendre.
Ok, très bien. Toi, tu l'as déjà ressenti, ce syndrome d'imposture ?
Moi, j'ai commencé avec. C'est pour ça que je vous propose de pas faire comme moi. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un état donc moi, j'ai commencé l'INSA à Lyon pour être ingénieur en mécanique à 16 ans. Donc, j'étais en premier cycle, en prépa intégrée. Et je touchais mon rêve du doigt. Moi, je voulais devenir ingénieur en mécanique. Donc, c'était formidable. J'étais là où je voulais être. C'était génial. Tout se passait bien, n'est-ce pas ? Sauf que pas du tout. J'étais incapable de voir la réussite que j'avais accomplie. J'étais incapable de me rendre compte qu'en fait, j'étais déjà dans une école où les gens n'allaient pas, que j'avais été prise, etc. Mais comme tu vois, alors le syndrome de l'imposteur, il se loge où il peut. Donc moi, il s'était planqué dans le fait que j'avais été admise à l'INSA, mais pas en première vague. J'avais pas fait partie des premiers admis. Il avait fallu que je passe un entretien supplémentaire pour qu'on m'admette dans l'école. Donc, j'avais pas forcément ma place. Tu vois la logique ou...
Ouais, je vois très bien.
D'accord. Donc, une fois que j'étais sur place, j'étais gentiment en train de m'auto-saboter pour me prouver que j'avais vraiment pas ma place. Alors, ça peut aller loin. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu 5 kilos la première année. Les devoirs sur table, c'était le pire moment de ma vie à chaque fois. Sauf que c'est une fois par semaine. Donc, le pire moment de ta vie une fois par semaine, c'est dur, quoi. Et en fait, ça a culminé à un moment où, en conception, donc en plus, tu as la matière de prédilection, j'avais fait déjà du dessin industriel avant, c'était super important pour moi, j'étais une mécanicienne, donc j'adorais ça, etc., etc. Dans un devoir de conception, la veille, je pose une question au prof, il y avait cours, je pose une question au prof, il m'explique un truc en particulier, le lendemain, ça tombe à l'examen et j'arrive à me démerder à faire exactement l'opposé de ce qu'il m'a expliqué. Ok ? Donc le prof, le jour, il me rend ma copie, il me dit, toi, il faut qu'on parle parce qu'il y a un truc, tu te fous de ma gueule, quoi. Je me dis, oh putain, ça va chauffer. Je vais voir le prof en question, Fabrice Ville, et je lui dis, il me dit, tu dois te moquer de moi. La veille, je t'explique, je te fais répéter pour voir si t'as compris. T'as compris, le lendemain, tu fais l'inverse au devoir. C'est une blague. Tu t'en fous des devoirs, tu rends à l'avance, qu'est-ce que c'est que t'as à faire, quoi. Et donc, je lui dis que non, bien sûr, je me fous absolument pas de sa tête. Moi, je suis encore plus en train de me décomposer. J'ai 16 ans, je suis au bout de ma vie, j'ai déjà l'impression qu'on va me renvoyer chez mes parents. Donc là, je me dis, c'est bon, c'est pour sûr, c'est maintenant. Et donc, il finit par me pousser dans mes retranchements et je lui explique un peu tout en cascade que non, mais je sais qu'en plus, on va me renvoyer chez moi, mais que vraiment, je veux pas, mais qu'en même temps, je comprendrai et que je sais pas quoi et tout. Et il me dit, oulala, stop, ça va pas se régler en 5 minutes, il faut qu'on se parle. Et donc, je revois ce prof pendant 1 heure et c'est lui qui m'explique en gros que, par exemple, la facette que mon syndrome de l'imposteur allait pas me dire, en fait, il y a que 30% des gens qui candidatent qui sont pris dans l'école où j'ai été prise. Donc, je peux continuer à regarder tant que je veux que j'ai été prise en dernière vague, mais ça conditionne absolument pas mon succès futur, alors que le fait d'y être entrée, ça conditionnait mon rêve. Et donc, si tu veux, le chemin, il a commencé à ce moment-là. Mais il a été long, hein. J'ai continué, j'ai repris les 5 kilos l'été pour gentiment les reperdre l'année d'après, par exemple. Mais ça se passait beaucoup moins mal au fur et à mesure.
Ok, tu l'as dompté, quoi. Et aussi avec, du coup, si je comprends bien, des gens à un moment qui t'ont tendu la main et qui t'ont pointé ce qui allait pas. Et c'est un peu ce que toi, tu fais, au final. Tendre la main aux personnes qui n'arrivent pas toutes seules à s'en débarrasser, quoi.
Ben, je le fais aussi, c'est ça, pour les vingtenaires que j'étais à l'époque, et me dire, s'ils perdent moins de temps et s'ils souffrent moins que ce que moi, j'ai eu à souffrir de ce truc, c'est tout bénef, quoi. Parce qu'il y a aussi le fait que si, par ailleurs, j'avais pas été particulièrement têtue par moment, parce que ma vraie voix intérieure, elle est particulièrement têtue, eh bien, j'aurais peut-être abandonné. Et c'est nul, c'est dommage. En fait, la vraie peur, la vraie terreur qu'on peut tout avoir, c'est est-ce que le traitement contre le cancer, il n'est pas planqué dans la tête d'une femme qui pense qu'elle mérite rien et qu'elle vaut rien et qui ne fait pas part de ses idées, quoi.
C'était un peu vers là où j'allais aller avec cette idée de peur de l'échec qui peut amener en fait à ne rien faire.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tout le temps qu'on passe à avoir peur peut-être d'un échec possible, c'est du temps où on n'est pas en train d'essayer pour savoir comment ne pas échouer et où il n'y avait peut-être même pas échec envisageable, parce que plus on a peur de l'échec, plus on a tendance à en avoir vraiment très très peur. La recommandation que je ferais, c'est allez vous faire rejeter quelque part. Vraiment, parce que souvent on a peur de l'échec comme on a peur du rejet. Et pareil pour l'échec, en fait, la recommandation que je vous ferai, c'est ça, quoi. C'est si vous avez peur de l'échec parce que vous n'en avez jamais vraiment connu un, allez-y. Et ça, vous pouvez le savoir parce que si vous n'avez pas une bonne histoire d'échec à me raconter là maintenant, si je vous demandais, c'est qu'a priori, tu t'es pas assez planté, tu vois. Il faut que tu aies une bonne histoire de plantade, tu vois. Moi, j'ai trouvé des fiançailles, par exemple. Ça, c'est une bonne plantade. T'es fiancé, tout se passe bien, gna gna gna, paf, tu romps les fiançailles. Bon, bah, bonne plantade de vie personnelle. Bon, voilà. Si t'as pas une bonne histoire de plantade, un truc un peu conséquent, c'est que tu t'es pas, t'as pas assez essayé truc pour te planter. Et si t'as une bonne histoire de plantade et que tu te dis, ouais, mais je veux plus jamais que ça m'arrive, ok, il va falloir digérer ce truc-là. Parce que c'était probablement pas si grave que ça, ou si dramatique que ça. T'es là pour nous le raconter, donc c'est que t'as survécu. Et donc dans ces cas-là, c'est ça, il faut essayer de désensibiliser le truc. Je pense que la plupart du temps, c'est plutôt que les femmes n'ont pas une bonne histoire d'échec. Et en plus, encore une fois, il y a une grosse valeur autour de l'échec. Grosse valeur morale en France qu'il n'y a pas, par exemple, aux États-Unis, où on te pose la question en entretien d'embauche de quel échec tu peux nous raconter, sur quoi tu as déjà échoué. Moi, je l'ai eu, la question en entretien d'embauche en Suède. Est-ce que tu peux nous raconter une fois où tu as échoué, une fois où tu as été déçu? Parce qu'il n'y a pas de valeur morale en fait. Si tu as échoué, ça veut dire que tu as essayé des trucs. Il n'y a que ceux qui n'essayent rien, qui se plantent jamais.
Et puis ce qu'il faut regarder finalement, c'est qu'est-ce que tu fais suite à cet échec, peut-être.
C'est ça. C'est des fois l'occasion de te rendre compte que cette idée n'était pas bonne, qu'elle n'était pas faite de la bonne des manières, qu'en fait tu pourrais trouver une autre façon, ou te dire même, tu vois, si on reprend mon cas personnel de mes fiançailles complètement plantées, a posteriori je me dis c'est mieux pendant les fiançailles. Parce que ça sentait, c'était quand même une bonne connerie, ce truc. J'allais finir mariée avec la mauvaise personne et j'aurais bien regretté, je pense, tu vois. Donc, concrètement, finalement, des fois, tu retires tes billes au bon moment. Alors, peut-être avant, ça aurait été mieux, mais enfin, après, ça aurait pas été mieux, ça, c'est sûr. Donc tu vois, ça peut être ça. Et encore une fois, hein, tous les gens qui ont réussi, qui peuvent vous inspirer, qui peuvent être des modèles, ils se sont plantés à un moment donné ou à un autre. Y a toutes les citations iconiques de Michael Jordan sur le sujet, pour ceux qui sont un peu branchés sport, où il explique qu'il a raté des milliers de tirs, qu'il a raté des milliers de points, des dizaines pardon, de points fatidiques, où en fait on lui a fait confiance pour le shot final du match, et puis il l'a planté, puis ils ont perdu le match à cause de lui, etc. Et que c'est parce qu'il a échoué, qu'en fait il a réussi sa vie.
Ça mène à réflexion. Tout à l'heure, on parlait d'argent. Là, dans les pratiques concrètes, on n'en a pas encore parlé. Et comme en plus, j'ai des exemples à la fois dans ma vie personnelle ou dans mon entourage de gens qui se disent « purée, mais là, j'ai pas négocié correctement ma valeur ». Voilà. Comment, c'est quoi la clé de base pour réussir, pour pas se fondre dans son siège à dire « non, mais je prendrai ce que vous voudrez bien me donner ».
Alors, la première des choses, c'est tout ce qu'on peut faire en amont avant d'arriver au moment de la chaise, ok ? Alors, on va aussi parler de comment on fait pour pas avoir peur sur le moment, mais déjà en amont, on a parlé du syndrome de l'imposteur. Si vous lui poutrez la gueule, c'est plus facile de vous dire que vous valez quelque chose. Ou au moins, poutrez-le suffisamment pour qu'il parle pas à ce moment-là, comme ça vous êtes tranquille. Peur de l'échec, voilà, avoir peur de négocier parce que on va me dire non. Est-ce que c'est grave ? Non. En vrai, la négociation, elle commence quand on te dit non. Le premier non, ça te permet de commencer à discuter. Il faut se rappeler aussi, il faut dédramatiser. La négociation, c'est un truc qu'on fait en temps de paix, pas en temps de guerre. Quand les gens ils sont en train de se poutrer dans tous les sens, ils négocient pas. Il faut au moins qu'il y ait une trêve dans la guerre pour négocier. Donc clairement, c'est pas un truc de conflit, c'est pas un truc de guerre. Donc vous inquiétez pas, ça va pas partir en live. Donc déjà ça, parce que souvent on s'imagine un truc incroyable dans sa tête, alors qu'en fait c'est relativement un non-événement. Plus vous le ferez, plus ça vous paraîtra un non-événement des plus complets et total. Alors comment on se prépare en amont ? Déjà il faut connaître sa valeur. Connaître sa valeur, ça veut dire aller regarder sur les différents sites, regarder sur les sites de l'APEC, regarder s'il y a des offres d'emploi similaires où ils ont indiqué un prix, regarder les statistiques des anciens de votre école, regarder les statistiques syndicales, rapprochez-vous d'un réseau de femmes. Nous on en a un chez Power Ta Carrière qui est un groupe d'entraide sur Facebook. Là-bas, vous pouvez largement demander aux gens ce qu'ils gagnent et leur demander ce que vous pouvez demander pour ce poste-là. Il y a peut-être des gens qui font le même travail que vous, parce que maintenant, on est un peu plus de 600. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui fait le même boulot que vous. Donc ça, ça vous permet d'agréger de la statistique et de vous rendre compte du chiffre que vous voulez annoncer. Sur ce chiffre-là, on met un petit 10%. Ça va permettre de négocier. Parce qu'en fait, si tu arrives et que tu dis le chiffre que tu veux, ben, on va te dire moins. Donc, tu n'obtiendras jamais ce chiffre-là. Donc, il faut se mettre un petit coussin, un peu de gras. Comme ça, on peut couper tranquille dans le gras et faire plaisir à tout le monde. On négocie pas avant qu'en fait on soit déjà pris en quelque sorte. Donc pourquoi ? Parce que par exemple, les RH, ils adorent vous dire « Oui, alors du coup, est-ce que tu... quel salaire tu envisages pour ce poste, genre à la première fois qu'ils vous contactent, ok ? Ou alors, on va vous dire, vous gagnez combien aujourd'hui ? Alors, c'est marrant parce que c'est interdit dans plein de pays, hein, c'est illégal dans plein de pays de poser cette question, mais pas en France, pas de bol. Donc, typiquement, c'est des questions, je vous explique comment ne pas y répondre sur mon profil. Mais pour vous donner déjà une bille ou deux ici avant que vous alliez voir sur Instagram pour avoir des phrases supplémentaires, comme ça vous pouvez succéder de manière différente. On peut dire qu'on n'est pas à l'aise à parler de la question à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas encore compris tous les tenants et les aboutissants du poste et qu'on a d'abord envie de comprendre quelles sont les responsabilités derrière le poste avant de faire une réponse. Ça marche. Vous pouvez aussi demander à la personne en face de vous quel est son budget. Retourner la question et lui dire « Bah en fait, j'aimerais surtout savoir quel est votre budget pour le poste. » Parce que eux, c'est obligé qu'ils se sont posé la question. Ça vous permet de ne pas discuter d'argent trop tôt, de ne pas donner une valeur où en fait... Au début, vous allez forcément essayer de donner une valeur basse parce que pour l'instant, vous ne vous connaissez pas, il y a plein de candidats, ils ne vous aiment pas, vous, particulièrement, etc. etc. Donc, tu es là, tu essayes de donner une valeur basse et du coup, cette valeur basse, elle te plombe plus tard quand tu veux négocier. Donc, on essaye de rien dire à ce moment-là, de les faire parler d'argent en premier. On fait son petit entretien d'embauche ou les 14 qu'il faut dans certaines boîtes. Et ensuite, quand on arrive à la fin et qu'on est choisi, là, on parle d'argent. Et là, vous pouvez en fait... Alors, tu peux en toute conscience te dire... Ils t'ont choisi. Ils ont passé des mois à avoir des candidats. Ils n'ont pas spécialement intérêt que tu pars dans le sens en courant parce qu'en fait, c'est chiant. Il faudrait refaire tout le processus de recrutement. C'est l'angoisse. À toutes celles qui se disent si je négocie, on va m'enlever le poste. Les hommes négocient et ils vous prennent quand même les postes. Donc, négocier, je vous assure que ce n'est pas là-dessus que ça joue. On a tous des marges de négo quand on recrute. Là, c'est le moment du coup de se dire en fait, vous êtes sur un terrain d'égalité. C'est-à-dire que l'entreprise, elle te veut. Toi, tu veux y aller. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur l'argent. C'est même comme ça souvent que je présente les négociations, quand je négocie pour moi-même notamment, en disant « Bon, bah maintenant, en fait, on essaye juste de trouver un terrain d'entente. » Et c'est pareil, il y a des phrases toutes faites qui peuvent vous aider à lancer la négociation que vous pouvez trouver aussi sur l'Instagram de Power Ta Carrière.
Ok, bah on ira voir alors. J'ai encore quelques questions un peu pratiques. Il y a ce cliché qu'on ne peut pas tout avoir, qu'une femme dans sa carrière ne peut pas tout avoir. Tu vois, tu peux pas avoir le poste de rêve, dans la ville où tu veux, avec une cellule personnelle à toi, que ce soit cellule familiale ou amicale ou autre, qui corresponde à tes envies à ce moment-là. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout gérer. Il faut choisir. Si tu veux une grosse carrière, va falloir faire une croix sur un certain nombre d'autres choses. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est un cliché qu'on peut déconstruire ?
La question, c'est pourquoi, en fait ? Pourquoi on dit ça ? Parce que tu ne peux pas tout avoir ou tout vouloir et tout avoir, c'est quand même un truc qu'on dit essentiellement aux femmes. Et du coup, ce serait hormonal ou ce serait physique ou ce serait...
Moi, je le vois plutôt comme un cliché si on prend la cellule familiale de base où on se dit que de toute façon, le mari, il n'a pas la responsabilité de s'occuper de ses enfants. Donc, il peut se permettre d'avoir une carrière très prenante parce que c'est sa femme qui s'en occupera car elle est cherchée à l'école, en gros.
Voilà. Donc, en fait, la réponse à la question, c'est que si, tu peux tout avoir et tout vouloir. Alors, la question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment ? Donc, débarrasser des injonctions. Donc, par exemple, est-ce que tu veux vraiment avoir des enfants ? Bon, bah oui, non, peut-être, ne se prononce pas. est-ce que tu veux t'en occuper toi exclusivement, absolument tout le temps ? Bah oui, non, ou peut-être. Est-ce que tu veux avoir une vie en dehors de ta famille ? Ce genre de choses. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que tu veux l'intérieur et la décoration ou pas ? Tu vois ? Par exemple, moi, je voulais l'intérieur et la décoration, mais je voulais pas y passer du temps. Donc, j'ai fait carrière, j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai payé une décoratrice. Voilà, tu vois, c'est un truc à la con, mais voilà, il y a plein de solutions. Donc, la question d'abord, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment ? Qu'est-ce que ça veut dire tout vouloir ? Parce qu'en fait, personne ne veut tout. C'est-à-dire, les gens veulent des trucs et pas d'autres trucs, tu vois. Les gens, ils veulent une maison avec un jardin ou pas du tout. Ils veulent un appart en Paris ou pas du tout. Donc, la question déjà, c'est qu'est-ce que tu veux ? Ça a l'air bateau, mais c'est une question. Est-ce que vraiment les femmes se la posent souvent, celle-là ? Elles savent ce que les autres autour d'elles veulent. Le nombre de femmes à qui je demande c'est quoi ton parfum de glace préféré, elles pourraient me dire celui des seuls leurs enfants, mais pas le leur. Ça, c'est déjà la première des étapes. Et ensuite, comment on fait pour tout avoir? Et bien, en fait, c'est là où on arrête de négocier, justement, et de se dire que c'est pas possible. Parce que, je vais vous prendre un exemple concret suédois. Ok. En Suède, il y a le congé paternité. Parce que, évidemment, hein, on n'est pas là pour dire que tout est faisable à son niveau. Il y a aussi que, justement, ce qu'on fait à son niveau...
On va y venir.
Voilà, nous mène aussi à ce qui est à faire, à ce qui est à combattre d'un point de vue national, d'un point de vue sociétal. Donc, en Suède, il y a le congé parental. Donc, ça veut dire que les pères sont impliqués dans l'éducation de leurs enfants parce qu'en fait, ils sont obligés de prendre au moins 2 mois parce que sinon, il y a la moitié du congé parental qui saute. Donc, en vrai, dans les mentalités, ça fait que tout le monde prend à peu près 6 mois. Donc, moi, je travaille dans un milieu, je suis dans le maritime, je travaille avec des hommes quasiment. Et ils disparaissent tous 6 mois en congé parental. Dès qu'ils ont des enfants, on se dit « Ah, bah lui, dans 4 mois, il n'est plus là. » Donc, voilà. Donc, ça veut dire que, un, ils savent s'occuper de leurs enfants. Tu vois, ils sont pas manchots pour mettre de la crème solaire, quoi. Ça veut dire qu'ils le font. Ça veut dire qu'ils sont impliqués. Ça veut dire que leurs enfants ont l'habitude que c'est aussi papa qui fait. Ça veut dire que, du coup, l'éducation des enfants n'est pas genrée de ce sens-là. Donc, les entreprises se disent pas « Je vais embaucher une femme, elle va tomber enceinte et moi, je serai marron. » En fait, ils vont embaucher un homme, sa femme va tomber enceinte et ils seront marrons pareil. Donc, globalement, et, tu vois, ce genre de choses, ça te montre bien qu'en fait, si tu peux tout vouloir et tout avoir, c'est juste une histoire d'avoir la bonne team autour de toi, une histoire de mettre les curseurs sur les trucs aux endroits où tu les veux. On ne veut pas forcément la même chose à différentes saisons de sa vie. C'est normal et c'est OK. Tu peux te concentrer sur un truc à un moment et puis sur un autre truc à un autre moment. Donc, moi, en fait, je considère que cette phrase, c'est une impasse à partir du moment où on ne la prononce pas en face d'homme.
Très bien. On a commencé à l'aborder, donc je vais continuer dans cette voie-là. Là, on a beaucoup parlé de solutions à mettre en place à l'échelle individuelle pour son avancement à soi. Mais on l'a dit au départ, tout ça, ça a à la fois des causes et des conséquences structurelles. Donc, en termes de politiques publiques qui peuvent permettre de lutter contre les inégalités dont on a parlé, là, tu viens d'aborder le congé parental. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Moi, je pense que c'est le centre de tout. C'est incroyable comment c'est important pour la vie de tout le monde, y compris pour la vie des personnes qui ne sont pas parents. Parce qu'en fait, la suspicion de maternité, elle se porte sur toutes les femmes, même celles qui décident de ne pas avoir d'enfants. Je sais que récemment, vous en avez parlé, du combat que c'est de ne pas avoir d'enfants.
Effectivement, avec Camille Boucolévi dans l'épisode sur la stérilisation volontaire.
Et le pire, c'est que ça ne la dédouanera pas dans sa carrière de toute la suspicion autour de la maternité quand même. Tu vois, c'est ça qui est terrible. Donc, je pense que ça, c'est le centre. Alors, pour être plus précis, on parle d'un congé parental, donc qui implique du coup les deux parents, de quelle que soit la nature que ce soit comme famille, ok? C'est-à-dire qu'en Suède, par exemple, ça vaut pour les familles homoparentales, ça vaut pour les familles adoptantes. Donc si tu adoptes, tu récupères aussi le congé parental. Il est même plus long quand tu adoptes parce qu'il y a l'idée qu'en fait, c'est plus compliqué de construire une relation avec l'enfant. Donc on va te donner un peu plus de temps. Donc le congé parental avec parent 1, parent 2, que chacun puisse prendre, et je pense qu'il faut le rendre obligatoire pour les deux. Au moins sur une durée. Donc, encore une fois, en Suède, je crois que, je ne sais plus si c'est 60 ou 90 jours qui sont obligatoires pour les deux parents. Bon, ça vous vérifierez.
Ouais, j'ai plus le chiffre en tête non plus. Mais effectivement, on est sur, en tout cas, plusieurs semaines, mois, quoi.
Oui.
On n'est pas sur 14 jours.
Non, c'est clair. Donc, voilà, rendre obligatoire une partie, l'allonger, il faut qu'il soit soit de taille égale pour les deux parents, soit divisable entre les deux parents, mais que les jours soient mis en combiné, quoi, soient mis en commun.
En fait, il ne faut pas que ce soit possible. Il faut, par exemple, que si on dit on donne 1 an au total au couple, en gros, il ne faut pas que ce soit possible de se dire que les 12 mois vont à une seule personne. Il faut qu'il y ait une partie qui soit incompressible pour aller à un partenaire et une autre partie qui soit incompressible pour aller à l'autre partenaire. De, je sais pas si on part sur 1 an, de se dire ok, peut-être on veut pas une égalité stricte dans tous les cas, parce que voilà, chacun a ses fonctionnements particuliers, mais peut-être qu'on veut que 4 mois soient incompressibles. Donc ça veut dire que si l'un des deux partenaires ne veut pas du tout le prendre, bah en fait le congé parental il est réduit, il n'est pas de un an, mais il est peut-être que de 8 mois.
C'est ça l'idée. Ça change les mentalités. C'est-à-dire qu'en Suède, c'était pas forcément les pères n'étaient pas forcément extrêmement impliqués avant ce cas-là. Mais petit à petit, avec un mois obligatoire, puis deux mois, puis je crois que c'est passé à trois mois. C'est pour ça, je crois que c'est 90 jours maintenant. Ça crée cet intérêt, cet engagement, etc. Ça empêche les entreprises de succès le truc aussi, ou de foutre des pressions sur les gens, parce qu'on sait que ça se fait. Donc clairement, ça, je pense que c'est ultra important.
Et juste pour mettre un petit point là-dessus sur la situation en France, le gouvernement s'est félicité récemment, à la fin de l'été dernier, il me semble. À la fin de l'été dernier, il y a un rapport qui a été remis qui recommandait 9 semaines, je crois, de congé.
Oui, c'était bien plus long que ce qu'ils ont fait en tout cas.
Et au final, le congé paternité, donc pour les pères ou pour le deuxième parent, a été allongé non pas donc à 9 semaines comme ce qui était recommandé, mais il est passé de 11 ou 14 jours avec il y a différents congés qui se comptent différemment, mais en gros, il était de 11 ou 14 et il est passé à 21 jours. Donc on est quand même très très loin des 9 semaines qui étaient recommandées.
Ah on est loin des 8 semaines qui sont en application en Espagne, par exemple. Parce que je sais que là, il y en a qui écoutent le podcast et qui se disent « Ouais, mais d'accord, t'habites en Suède et c'est un pays de bisounours de toute façon. Vous êtes super spéciaux là-bas au bout du monde connu. » Mais du coup, juste à côté, les voisins font mieux, quoi.
Oui, et surtout, en fait, la France a été bloquante pour instaurer des mesures plus égalitaires au niveau européen sur la question du congé parental. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu des propositions pour que il y ait un règlement européen qui rende obligatoire d'allonger le congé pour le deuxième parent. Et la France a freiné des quatre fers.
Oui, c'est bien, on est toujours en avance sur ces questions-là. Un autre truc aussi, c'est que l'arsenal législatif, par exemple, concernant le harcèlement moral, les droits des femmes enceintes, etc., existe. Ça serait bien que ce soit, un, mieux appliqué, deux, mieux mis en avant. Beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits, elles ne savent pas ce qui est disponible, ce qui est possible de faire. Et puis évidemment, ça a fait beaucoup de mal aussi le plafonnement des indemnités prud'homales pour ce genre de choses, puisque maintenant les entreprises peuvent littéralement se dire « C'est combien pour faire chier tel employé ?»« Ah bon, c'est tant. Bon, ça va, ça rentre dans les budgets, quoi. » Donc concrètement, ce n'est pas appliqué par tous les juges prud'homales. Il y en a qui font du zèle et qui évitent... qui plafonne pas, alors qu'il devrait, mais tant mieux. Mais concrètement, ça fait partie des problèmes.
Bon, alors, on a vu le sujet au niveau individuel, au niveau plus global. On a, ceci dit, assez peu parlé de toi. Et moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton parcours, sur comment t'es arrivée là. La question rituelle dans Activiste, pour commencer, c'est est-ce que tu te souviens de ta ou tes premières indignations, puisque maintenant tu te bats contre des choses qui t'indignent.
Je pense que un des moments assez charnières, c'est on retombe sur. Alors moi vraiment, c'est mon rêve de devenir mécanicienne. J'avais 4 ou 6 ans quoi. Mon père me montre comment ça marche une voiture et je me dis tiens, il y a des explosions dans ce truc et ça roule, mais c'est formidable. C'est absolument ce que je veux faire dans ma vie. Et donc ça s'est construit, et c'est resté et j'ai vraiment construit tout mon parcours scolaire dans cette direction. Tu vois, Esther, il y a plein de jeunes gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire et je comprends tout à fait. Moi je savais et j'ai tout construit dans ce sens-là. Et donc j'arrive en terminale et j'ai fait sciences de l'ingénieur au lycée, vraiment tu vois au bout du truc quoi. Et j'arrive en terminale et je tombe sur un prof de sciences de l'ingénieur et c'est le moment de poser les dossiers et je pose le dit dossier à l'INSA, celui qui tourmentera mon syndrome de l'imposteur, enfin celui avec lequel mon syndrome de l'imposteur me tourmentera plus tard. Et mon prof, il faut des appréciations, je crois, ou en tout cas demander un papier ou je ne sais quoi. Donc j'explique à mon prof et il est choqué parce qu'il se dit « Quoi ? Mais tu postules pour une école d'ingénieur ? Mais genre, tu veux devenir ingénieur ?» Et je me dis « Mais il tombe de sa chaise, pourquoi celui-là ? » Enfin, c'est un peu... Enfin, dans la classe, c'était pas tout le monde, hein, ça allait peut-être être une moitié, mais enfin, je veux dire, bon, on était là quand même pour ça, quoi, donc...
Ça s'appelle quand même science de l'ingénieur, a priori, le parcours que tu fais.
Donc. Ça s'appelle science de l'ingénieur, donc bon, il y avait un risque quand même, hein. Et là, il part sur une tirade où il m'explique qu'en fait, non, mais c'est pas possible, lui, son fils voit jamais ses enfants, ingénieur, c'est un travail qui prend tellement de temps, ça allait faire de moi une... J'allais pas pouvoir avoir des enfants, alors moi, dans ma tête de gamine de 16 ans, je me dis... et alors les voitures c'est mieux, enfin tu vois, c'est-à-dire qu'en plus c'est ça quoi,
tes fesses.
Ce genre de ouais, puis c'est ça, puis ce genre de discussion quand t'as 16 ans dans ta tête ça se règle vite, tu dis bah je m'en fous, je ferai des voitures, enfin tu vois, c'est très spécial quoi. Et donc lui me dit ouais mais non, tu seras une mère terrible ou une employeur, t'es une ingénieure complètement pourrie quoi, personne pourra te faire confiance, on peut pas rentrer à 5h de l'après-midi, genre de truc. Bon déjà je l'emmerde parce que je rentre à 5h de l'après-midi, étant donné que je travaille en Suède et que nous on travaille pas jusqu'au bout de la nuit, c'est pas la culture locale. J'ai pas d'enfant, mais voilà, si j'en ai, je suis sûre que ce sera tout à fait gérable aussi. Mais globalement, je me suis fait frire la tête par un vieux mec alors que j'avais 16 ans et que j'avais toutes les compétences pour faire un truc sur la base de mon genre, en fait. Parce qu'il a frié la tête à personne d'autre dans la classe. Et globalement, bah, leur petit schéma, que ce soit implicite ou explicite, ça a marché. Parce que moi, dans ma classe, on était déjà que 4 filles et je suis la seule à avoir postulé et à être devenue ingénieure au bout du compte, quoi. Donc concrètement, ça tu vois, c'est un des premiers moments où tu te dis, si ce mec dit ça à d'autres gamines et qu'elles l'écoutent, on est déjà en train de paumer du talent quoi. Merde, elles ont 16 ans, tu veux pas lâcher la grappe des gamines quoi.
Complètement. Du coup, toi tu l'as pas écouté. T'es arrivée au final bah, dans ce milieu de l'ingénierie maritime qui est aussi un milieu très masculin. Est-ce que t'as eu à te battre contre d'autres types de discrimination ? À ce moment-là
En fait, ça a été jalonné un peu partout dans mon parcours. Donc, il y a toujours un moment, une phrase, un truc, un machin. Après, c'est marrant parce qu'il y a comment aussi tu le vis. C'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, j'ai décidé que j'allais mériter ma réputation. Donc, par exemple, tu es une chieuse tout le temps, dès que tu parles quand tu es une femme, tu vois. Donc, moi, je me dis, pourquoi pas, autant que ce soit vrai, tu vois, autant que ce soit, autant assumer le truc. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette idée de me dire, si on me colle des étiquettes... autant que ce soit les bonnes. Donc, ça m'a assez vite libérée du regard de l'autre et de faire plaisir à autrui. De toute façon, le fait d'être là, ça ne me permettait pas de faire plaisir à autrui. Donc, si tu veux, ça posait vite des problèmes. Donc, au hasard, alors, il y a une fois, je suis allée à un voyage d'affaires à la maison mère. Je travaillais pour une grande entreprise dans l'automobile. Parce que j'ai fait de l'automobile avant de faire du maritime. J'avoue, j'insiste hein, sur les milieux masculins. Donc, j'étais dans l'automobile, je suis allée à la maison mère, j'ai donné mon avis pendant une semaine, je suis rentrée, et avant que je rentre, il y avait déjà une rumeur qui m'avait précédée dans mon bureau suédois. Ils avaient appelé mon manager pour lui dire « Non, mais ça va pas, c'est qui cette tempête blonde que tu nous as envoyée ?» C'est Blonde Storm, hein, pour ceux qui parlent anglais. Ils ont littéralement appelé mon chef pour lui dire « The Blonde Storm, là, c'est pas possible. Tu l'appelles et tu lui expliques qu'il faut arrêter, là. » Et du coup, heureusement, à l'époque, j'avais un manager qui était un peu, alors avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, mais qui aimait le conflit, et qui m'a concrètement dit « Je ne sais pas ce que tu as fait. » Ils avaient l'air fâchés. Alors, globalement, je pense qu'il faut continuer. mais voilà, donc ok. Donc, je suis devenue The Blonde Storm à l'époque. En partant de là, j'étais connue pour mes... Alors, c'était une boîte très conflictuelle et particulièrement toxique. Je vous assure que je suis une femme sympathique en temps normal, mais il ne faut pas m'emmerder. Donc, j'étais connue pour mes crises de colère, enfin, pour mes moments où je m'engueulais avec quelqu'un et où je reculais pas, quoi. Donc, ils ont fini par m'appeler Mother of the Dragons. Du coup, en parlant de là, j'avais les cheveux très blonds pâles aussi. Hein. C'est-à-dire que maintenant, pour ceux qui me croiseraient, je suis brune hein, de base, mais j'avais les cheveux très blonds pâles à l'époque. Et du coup, voilà, j'ai hérité de Mother of the Dragons. Mais je me dis, voilà, c'est comme ça, tant pis. Fin... En fait, on m'aurait collé probablement l'étiquette d'une emmerdeuse en temps normal. Si je suis une emmerdeuse parce que je me défends et que je défends mes clients en tant que commerciale, ça m'allait pas mal, quoi.
Voilà, la mère des dragons, tu le vis, tu l'assumes, c'est pas un problème. Est-ce que c'est là que, du coup... Enfin, c'est suite à tes expériences, c'est ça que tu t'es dit, ok, il manque quelque chose pour empouvoirer les femmes dans le monde du travail, vas-y, je vais le faire. C'est quoi ton déclic pour le faire ?
En fait, ça s'est construit petit à petit, c'est-à-dire qu'entre mes expériences où j'ai failli m'auto-saboter dans les proportions importantes, les femmes que j'ai récupérées autour de moi qui étaient des collègues de travail, des assistantes qui étaient ultra compétentes mais que personne ne regardait ou dont tout le monde se foutait et qui elles-mêmes se dévaluaient, les étudiantes que je vois renoncer à des trucs avant même d'avoir commencé parce que non mais ça sera pas possible, mais de toute façon on m'a dit que c'était pas possible et on m'a dit on est un con et souvent un bonhomme d'ailleurs. Et puis même à titre plus proche quoi, mes sœurs aussi qui sont vraiment brillantes et talentueuses et en fait qui ont réussi parce qu'elles étaient brillantes et talentueuses, mais je me dis, mais mon Dieu, mais sans le frein à main qu'est le syndrome de l'imposteur et le sexisme, elle serait allée encore tellement plus loin, en fait. C'est-à-dire que c'est ça. Et je les ai vus petit à petit se défaire de ça, mais il y a quand même eu des grandes périodes de frein à main, voilà, assez emmerdantes. Et donc, au bout d'un moment, aussi, quand moi, j'ai eu l'impression d'être arrivée quelque part dans ma carrière et que j'étais satisfaite de ce que j'avais, et que je pouvais décemment me dire « je suis fière de moi ». Je suis contente de ce que j'ai réussi. Je me suis dit, ok, il faut que le sentiment se propage, quoi. Il faut qu'il y ait plus de femmes qui pensent comme ça. Il faut qu'il y ait plus de femmes qui ont conscience de qui elles sont, en dépit de tout ce qu'on leur dit. Parce que je te dis, Esther, moi, le truc qui me fait peur, c'est ça, quoi. C'est que la solution contre le réchauffement climatique ou une grosse partie de la solution, elle soit dans la tête de plein de jeunes femmes qui, en fait, pourraient carrément nous aider. On a des problèmes énormes en tant qu'humanité auxquels il faut qu'on fasse, auxquels il faut qu'on fasse face. Et on se paye le luxe de squeezer 52% des potentielles solutions à l'équation. Moi, je trouve. Enfin, je pense que les gens devraient s'alerter beaucoup plus, s'alarmer beaucoup plus. C'est grave. Il y a des solutions à des problèmes importants qui sont dans la tête de jeunes filles auxquelles on est en train de dire aujourd'hui qu'en fait, il faut qu'elles fassent pas ce qu'elles veulent faire et qu'elles se taisent surtout, peu importe le métier qu'elles fassent. J'ai peur qu'on fasse un drame, j'ai peur qu'on fasse des conneries, et on est en train de faire des conneries, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose à mon échelle.
Et donc t'as créé Power Ta Carrière. Au fil de cette expérience, est-ce que t'as eu des difficultés, ou notamment une difficulté à laquelle je pense, c'est te dire bah mince, maintenant que je prends la parole, je pense que tu vas me dire non, mais on va voir, mince, maintenant que je prends la parole, je suis confrontée à des gens qui sont pas d'accord avec moi. Et bon, j'ai l'impression que dans ton parcours, c'était pas la première fois que t'étais confrontée à des gens qui étaient pas d'accord avec toi, mais c'est souvent un frein à l'engagement, en fait, ce truc de bah, « je vais pas dire des trucs parce qu'après, il y a des gens qui vont me dire qu'ils sont pas d'accord et ça me fait peur ». Comment tu t'as fait pour le dépasser et pour te dire « bah tant pis, je vais quand même dire mes trucs, en fait ».
Alors, concrètement, il y a un des trucs qui m'a un peu gênée, c'est-à-dire que bon, les mecs qui sont frontaux et qui disent « j'ai pas lu, va me faire un sandwich », bon, ça va. Globalement, j'en avais croisé des plus subtils avant, donc c'est pas très grave. Les femmes qui me disent que ça n'a pas de sens, qu'il faudrait traiter les femmes comme les hommes, c'est comme ça qu'on règle le problème, bah, je peux entendre ça, et en même temps, bah, je suis pas d'accord, donc c'est pas grave, on a un désaccord irréconciliable. C'est pas grave, hein, ça arrive avec les gens. Le truc que j'ai trouvé plus difficile, c'est la question dont on a parlé en tout début, quoi. C'est de me dire, mais en fait, pourquoi ça n'a pas sa place de parler d'argent dans le féminisme ? Est-ce que je suis en train de faire une connerie ? Est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris ? Mais en même temps, je ne peux quand même pas laisser des femmes, bah, en fait, avoir par exemple aucune conscience des finances de leur couple et donc ne pas se rendre compte qu'elles sont en train d'encourir des dettes qu'elles n'ont pas prises elles-mêmes mais qu'elles sont associées à ça parce qu'elles sont associées à leur conjoint, etc. Enfin, toi, ce genre de truc, ça, voilà, ça m'inquiétait. Donc ça, c'était plus difficile. Mais tu vois, c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est difficile pour moi si le conflit, il est aussi à l'intérieur de moi parce que j'ai internalisé des trucs et que j'essaye de savoir et de moi-même me dire où est-ce que j'en suis sur cette question. Mais après, autrui a le droit d'avoir un autre avis que soi et c'est comme ça, en fait. Trouvez votre tribu, quoi, les gens qui, a priori, pensent comme vous, au moins d'une certaine manière. Alors, personne ne pense comme toi à 100% et tant mieux. Mais les gens qui sont dans votre tribu et soutenez-vous avec ces gens-là et votre voix, elle est importante. Moi, j'ai vu une métaphore il n'y a pas longtemps qui était intéressante là-dessus. C'était de dire... je sais que, par exemple, il y a des gens qui disent « Ouais, mais il y a déjà genre 50 comptes sur telle et telle question. Je ne vais pas créer le mien en plus, quoi. » La vérité, c'est qu'il y a 50 mecs qui ont cuisiné des patates dans Top Chef. Et ils font tous la patate à leur façon, quoi. Ou même si on parle de patates frites, quoi. Tu sais, genre, tout le monde a fait des patates frites dans Top Chef à un moment donné ou à un autre, mais t'as un mec qui a fait des spirales, un mec qui a fait des allumettes, un mec... Donc, de toute façon, ta voix, c'est ton truc, quoi. Tu vas le cuisiner différemment, tu vas le présenter différemment, tu vas... Et en fait, ça va parler à quelqu'un qui, en fait, t'avais pas compris avec d'autres trucs et qui va comprendre avec ton truc. Donc, c'est ça qui est important. Il faut se concentrer sur les gens avec lesquels on peut discuter, soit parce qu'ils sont pas trop en désaccord avec nous, soit parce qu'ils sont d'accord avec nous et qu'ils ont un truc à apporter, etc., etc., plutôt que les gens qui sont de façon diamétralement opposés avec toi. Enfin, Pascal Pro et moi, on se mettra jamais d'accord, donc c'est pas, on n'est pas ni l'un ni l'autre, on va tomber de notre chaise sur ce point de vue-là, quoi.
Avec cette référence, j'ai presque envie de voir le face-à-face. Mais à la place, je préfère te demander si, avec tout le travail que tu abats, et devant le peu d'avancée en la matière, t'es pas découragée parfois ?
Mais les avancées, elles sont... il y en a en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que si tu veux, ok, peut-être que d'un point de vue social, ça avance pas, voire même ça recule sur certaines questions. Mais ce qui est intéressant, c'est le tonnerre qui gronde derrière en fait. Tu vois, les jeunes femmes que je vois sur Power Ta Carrière, qui elles ont genre 16-18 ans, elles sont déjà beaucoup plus avancées que moi à leur âge. Ça, c'est la génération d'après, c'est le tonnerre qui gronde, personne ne les arrêtera en fait. Il y a plein de gens qui essayeront sûrement, il y aura de la casse peut-être, c'est dommage, mais personne ne les arrêtera, parce qu'à un moment donné, il y a des trucs qui sont lancés et qui sont inarrêtables. Donc ça, tu vois, c'est ce qui fait que tu ne peux pas te dire qu'en fait ça ne marche pas. Et puis de toute façon, ces gens, peut-être que, enfin, si j'avais rien fait, il ne se serait rien passé du tout, et maintenant que je fais des choses, que je coach des femmes et que je les aide, et il y en a une, elle a quitté une boîte que je connais bien de l'automobile récemment, super toxique, pour aller dans une start-up où elle rêvait de bosser, et elle a fait plus 40% de salaire au passage.
Waouh.
Voilà, et si tu veux, le truc, c'est genre, bah, c'est très bien, ses finances à elle sont plus saines, ça se passe mieux, elle travaille dans un endroit qu'elle aime, elle fait des dons à des associations féministes parce qu'elle s'est dit, putain, plus 40%, c'est trop d'argent pour moi, mais c'est pas grave, je vais en donner aux autres. Donc tu vois, tout le monde bénéficie. Et ça, c'est des trucs... C'est des trucs où ça avance. Et en fait, peut-être le luxe que je me paye, c'est qu'en tant que coach, moi, je vois mes coachés avancer. Donc, je ne peux pas décemment me dire que le monde, il n'avance pas. Parce qu'elles, elles avancent. Et en plus, ça fait tache d'huile. Parce qu'elles me disent qu'autour d'elles, leurs compagnons, leurs sœurs, etc., commencent à réfléchir aux choses différemment à cause de changements qu'elles-mêmes font dans leur vie.
Eh bien, merci beaucoup. C'est ultra inspirant. On arrive à la fin de cette interview. On conclut traditionnellement donc avec quelques questions choisies parmi une liste. Tu as choisi la chanson qui te remotive quand tu n'as plus la foi.
Alors moi, je vais tricher parce que c'est plusieurs chansons. Mais bah, déjà, j'aime beaucoup « Bitch Better Have My Money » de Rihanna. Pour les négociations de salaire, je vous recommande, c'est bien. Si vous arrivez en mode « Bitch Better Have My Money », et bah, franchement, t'as la pêche. Tu te dis que c'est bon, c'est ouais, il faut qu'il ait l'argent. J'aime beaucoup « La Grenade ». Tu vois, le tonnerre qui gronde, c'est ça quoi, un peu la grenade. Où tu te rends pas compte de ce qui se passe, mais il se passe des trucs quoi. De Clara Luciani, donc ça, c'est très important. Donc tu vois, voilà, ça c'est les chansons qui me foutent la pêche, et en plus les Power Girls de Power Ta Carrière ont gentiment fait toute une playlist prévue pour les négociations de salaire, pour se booster les unes les autres. Donc il y a plus d'une centaine de titres disponibles gratuitement sur Spotify, Deezer, et vous pouvez les retrouver via notre groupe d'entraide pour vous mettre la pêche avant une négo de salaire.
Génial. Question suivante, qui aimerais-tu voir d'autre sur ce podcast, ou entendre plutôt ?
Alors moi, je pense que Camille de Je m'emballe Clito serait une addition hyper intéressante, et en particulier, je trouve son combat, pareil, qui gronde, hein, tout n'est pas sorti, mais mon Dieu, quand ça va sortir, il va se passer des horreurs, hein, sur Je dis non chef, qui parle du sexisme dans le milieu et du harcèlement dans le milieu de la cuisine. Oh là là, celui-là. On n'a pas encore sorti les vieilles casseroles de cet endroit-là, mais quand ça va sortir, il y en a qui vont vraiment couiner. Hein.
Il y aura probablement beaucoup de choses à dire, effectivement. Merci beaucoup pour les suggestions, Sarah, pour les réponses à mes questions. Pour te retrouver, du coup, on va sur le compte Instagram Power Ta Carrière. Est-ce que tu peux l'épeler ?
Oui.
Parce que ce n'est pas juste Power...
c'est Power avec un H, hein. Donc c'est P-O-W-H-E-R, Ta Carrière.
Ok. Il y a un site internet qui va avec. On mettra évidemment les liens dans la description du podcast. Et puis, bah voilà, on peut te contacter pour un accompagnement personnalisé pour aller plus loin que ce qu'a permis ce podcast.
Tout à fait. Et si vous avez la moindre question, mes DM sont toujours ouverts. Donc, n'hésitez pas.
Super. Merci beaucoup, Sarah.
Merci à toi.
Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto-conquérir-le-monde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs, dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.